Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire. Cette émission est co-construite avec des personnes touchées de près ou d'un peu plus loin par la déficience visuelle. Alors si c'est votre cas, n'hésitez pas à nous contacter et faisons ensemble un mail l'imaginoire, l-i-m-a-g-i-n-o-i-r, @lilo.org. Vous pouvez également nous trouver sur Facebook ou YouTube, ou sur Instagram à l'imaginoire-du-8-radio. Mais qu'y a-t-il au menu du jour? Dans cette émission, nous vous proposons deux rencontres. La première avec Kali, dont nous avions déjà croisé la route lors de la saison précédente. Et une seconde rencontre avec Stéphane Scotto di Rinaldi, entre autres musicothérapeute. On commence avec Kali, qui, sur sa page YouTube Kali Travels, vous partage ses expériences de voyage en tant que personne malvoyante. Lors de la première saison, elle nous emmenait en Corée. Et là, pour la seconde qui vient d'être mise en ligne, elle nous emmène à Londres. En totale immersion, en voici un extrait.
Ah oui, petite précision, les Anglais, les Londoniens sont vraiment très sympas parce qu'il y a un monsieur qui a proposé sa place parce que Marine essayait de me guider dans le bus pour trouver une place et comme en plus il a beaucoup plu cette nuit, c'est très glissant, le bus n'attend pas et forcément commence à rouler tout de suite et donc on veut aller plus loin dans le bus pour trouver une place et il y a un monsieur qui a proposé de nous donner son siège. Voilà, donc toujours les Anglais, très très sympathiques. Donc on vient bien d'arriver à Camden Town. Donc c'est un des quartiers qu'on voulait faire. C'est un quartier qui était anciennement punk et qui aujourd'hui est beaucoup plus touristique, populaire, etc.
Et en effet, on vient d'arriver et là, on change de décor. On a l'impression d'avoir quitté Londres. C'est beaucoup de petites boutiques, beaucoup de boutiques de tatoueurs, de perceurs. Là, juste en face de nous, on a une façade qui a été peinte. Elle est magnifique. Ils ont dessiné la jungle sur le mur d'une maison. Et dessus, il y a des arbres, des perroquets. C'est très jingle, vert, coloré. Et dans la rue où on va se diriger, qui est un peu plus animée et bruyante, vous allez pouvoir l'entendre. C'est magnifique parce que chaque boutique, en fait, a peint sa façade d'une différente couleur. Et notamment il y en a deux là que je trouve magnifiques. C'est une boutique qui vend des Converse et sur la façade ils ont collé en relief une grosse Converse, mais grosse, vraiment ça fait notre taille quoi, avec le All Star dessus. Et juste à côté il y a une boutique indienne et la façade de cette boutique là est magnifique, plein de motifs indiens, il y a une tête d'éléphant collée sur le mur, c'est coloré, c'est hyper joyeux, ça fait du bien.
Effectivement, c'est ce qu'on avait vu, que maintenant c'était beaucoup reconverti en friperie. C'est ce qu'on nous a dit aussi avant de partir.
Il y a la même boutique avec des vannes, ils ont collé des grosses chaussures vannes, des dog shoes. Il y a des Timberland aussi sur la façade, c'est chouette. Hein.
Chouette.
Très bien décoré.
Si vous voulez continuer la balade, rendez-vous sur sa page YouTube Kali Travels, K-A-L-I-T-R-A-V-E-L-S. Allez, on enchaîne avec Stéphane, qui va nous parler de son travail de musicothérapeute, et plus particulièrement de la possibilité de quantifier les effets de cette pratique sur ses patients. Mais je n'en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, et vous avez raison.
Alors du coup, je suis Stéphane Scotto di Rinaldi, je suis psychologue, je suis musicothérapeute et je suis aussi en ce moment doctorant en psychopathologie. Donc je fais une thèse sur, en gros j'évalue les effets de la musicothérapie auprès de patients adolescents qui souffrent des troubles des conduites alimentaires. Je travaille aussi donc dans un hôpital auprès de ces patients et je travaille aussi au SAMSA avec des adultes qui sont atteints de déficience visuelle.
Mais musicothérapeute, c'est quoi? Ça consiste à quoi?
C'est un vaste, c'est un vaste sujet qui est souvent mis en débat et on n'est pas tous d'accord aussi. Il y a beaucoup de représentations, je pense, sur ce que ça pourrait être ou ce que ça pourrait ne pas être. Pour être très rapide, c'est l'idée vraiment de mixer des compétences musicales que la personne devrait avoir et des compétences cliniques. Le musicothérapeute n'est pas un musicien, par exemple, intervenant. C'est pas juste quelqu'un qui va utiliser la musique pour des prétextes X ou Y, mais c'est vraiment, il y a vraiment une démarche clinique dont la musique, du coup, devient un outil pour aller au bout de certains objectifs thérapeutiques. Je sors d'une séance où, par exemple, je vais utiliser, je sais pas, le graphisme sous induction musicale avec certains usagers. Pour l'idée, c'est vraiment pour pouvoir exprimer, extérioriser, pour passer par d'autres canaux de communication que la parole simplement. Donc ça, c'est par exemple, c'est un volet plus réceptif, mais la musicothérapie peut être active. Et là, par exemple, ça peut être par exemple faire du songwriting, donc de passer par l'écriture de chansons. Ça peut être par exemple la production de musique aussi au sein d'une séance. Il y a plusieurs, on va dire, protocoles. Et après, l'idée, c'est de pouvoir se les approprier soi-même et pouvoir surtout les adapter aux usagers ou aux patients qu'on a en face de nous.
Et t'as déjà un retour? Tu peux percevoir des changements dans le patient? Explique-moi cette affaire.
Ça dépend. Alors c'est une question à laquelle bon, j'essaye de répondre encore.
Oui, on demande toujours de quantifier l'inquantifiable.
Exactement.
Mais par rapport à humainement les effets, est-ce que c'est ton ressenti
Cliniquement, oui. Ouais. Cliniquement, il y a des choses qui sont intéressantes à observer, puisque quand on est psychologue, alors enfin moi j'ai cette casquette là, donc j'ai une erreur de lecture entre guillemets ou pas, je sais pas, mais en tout cas je peux faire la comparaison entre ben justement le fait d'être psychologue en général, on va dire la configuration classique, c'est on est derrière un bureau, il y a quelque chose d'assez duel en général, ou peut-être une pratique de groupe, mais qui reste encore assez avec un bureau et des chaises un peu, je vais pas dire scolaire ou académique, mais quelque chose de plus consensuel en tout cas. De plus, voilà. En tout cas, alors que la musique, déjà de base, rien que de fait même de changer de cadre et d'être debout, puis voilà, d'occuper l'espace déjà différemment, il y a déjà quelque chose qui peut se passer déjà à ce niveau. Et après, donc je vais pas dire que c'est magique. Et en fait, je sais pas à quel moment ça doit intervenir dans un parcours de soins. Typiquement, c'est une question que je me pose. Alors pour tous et pour tout le monde, pour toutes les pathologies, ça, j'y crois pas du tout. Et je pense qu'il faut pas du tout aller sur ce terrain-là. Mais j'ai envie de dire pour la musicothérapie, comme pour plein d'autres psychothérapies, ça va être au cas par cas. Alors c'est une banalité de dire ça, mais c'est il y a vraiment cette démarche-là. Que j'ai sur l'autisme par exemple, que j'avais pu avoir avant, où on va voir vraiment que quand on avait fait un groupe avec le docteur Gepner par exemple, qui est violoniste et altiste, on avait vu des effets sur l'amélioration de la communication sociale, sur des interactions sociales, sur le fait que de passer par ce canal qui est un canal finalement augmentatif en fait, et où on parle pas mais où on débrief après, on dit que c'est non verbal mais il y a quand même du verbal, ça permet aussi d'observer ça. Ça, on a pu un peu essayer de l'objectiver, même si c'est difficile. Mais en tout cas, cliniquement, on a pu voir ça. Dans le domaine de l'anorexie mentale, j'ai pu aussi voir certaines choses qui peuvent Ça, c'est, alors souvent moi je le dis comme ça pour l'anorexie mentale, je dis que c'est un peu la clinique de l'incertitude, c'est-à-dire que d'une séance à l'autre ou d'une semaine à l'autre, parfois, surtout quand les patients sont en phase aiguë, on a du mal un peu à se dire tiens, ce que j'ai fait là, ça va peut-être marcher, peut-être que là, ça, la semaine prochaine, j'aurai essayé ça, et en fait, finalement, bah, tiens, ça marche plus trop. Donc on marche un peu sur des œufs, mais en tout cas, des moments un petit peu comme ça, clés d'un coup qui arrivent, ou à la fin d'une séance de psychothérapie, d'un coup, ben, en sortir un instrument. Et voilà, passer par un autre canal, en fait, ben ouais, cliniquement, je peux dire qu'il y a des choses. Je vais essayer de le prouver parce que c'est tout l'objet de ma thèse et c'est tout ce que j'ai besoin de faire, même pour asseoir ma pratique et pour savoir un peu mieux de quoi je parle et comprendre les processus, les mécanismes pour pouvoir mieux en parler. Il y a déjà pas mal de choses qui sont décrites dans la littérature, mais c'est vrai que. Littérature scientifique, pardon, mais c'est vrai que. Que voilà, en tout cas cliniquement, il y a plein de choses qui s'observent.
Nous sommes donc en compagnie de Stéphane pour parler de musicothérapie. On appréciera la minutie avec laquelle il nous parle de ses recherches. Et tout ceci est très intéressant. Et cet aspect-là aurait pu suffire à provoquer notre rencontre et cet enregistrement. Mais ce n'est pas tout. Car Stéphane a également débuté en parallèle à ses recherches un projet de podcast nommé Musique et Psy, de la magie à la science. Et c'est de ça dont on va parler maintenant. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire, retour à l'entretien.
Alors du coup, le podcast s'appelle Musique et Psy, de la magie à la science. Alors dans le titre déjà, et la fin de ce titre, j'ai eu peur de certaines levées de boucliers, mais évidemment, j'ai pas voulu faire quelque chose qui existait déjà, je pense que ça n'existe pas, donc c'est bien. Donc j'ai un peu regardé aussi ce qu'il y avait autour de moi, etc. Et puis j'ai vu qu'il y avait souvent les musicothérapeutes, par exemple, qui étaient interviewés, parlaient de la musicothérapie, souvent des termes magiques, ce que j'essaye, par exemple, typiquement de ne pas faire depuis tout à l'heure, même si c'est difficile, parce qu'on a envie de dire que oui, c'est super, c'est magique, parce que moi-même, je suis musicien, donc on sait les effets que ça fait chez nous, déjà, la musique. Mmh. Et donc, forcément, on a tendance à le développer, à le généraliser chez les autres. Et du coup, forcément, ce podcast, il est né vraiment de ça, c'est que il y a de la littérature qui existe, qui a vraiment une vraie littérature à l'international. En France, c'est un peu plus difficile, mais à l'international, et qui montre vraiment des preuves d'efficacité, qu'il y a des meilleurs résultats avec la musicothérapie que certains traitements un peu plus traditionnels, pour le dire très rapidement. Nous, on se convainc entre nous, tous les gens qui pratiquent ça, on sait qu'il y a des effets, ou les art-thérapeutes savent qu'il y a des effets, c'est super, mais j'avais envie d'élargir le discours, et c'est pas forcément entre nous que j'ai envie de parler, mais l'idée c'était vraiment de parler à des personnes qui sont soit prescripteurs, soit qui peuvent indiquer la musicothérapie, alors je pense surtout aux psychiatres et aux psychologues notamment, mais pas que, et qui à mon avis... ont ce pouvoir, on reste encore dans le champ de la magie, mais ont ce pouvoir de nous faire travailler, en fait. Donc, souvent dans les descriptifs du podcast, ce que là j'ai commencé à faire et ce que je voudrais poursuivre, c'est que dans la description, il y a des références bibliographiques de ce qu'on a échangé, par exemple, avec certaines personnes que je peux rencontrer. Et c'est montré que voilà, c'est pas juste tiré du chapeau, c'est pas juste quelque chose d'occupationnel, parce que c'est vraiment ça aussi que l'idée reçue est très forte, que de personnes qui connaissent pas ont. C'est aussi ne pas convaincre forcément que les psychiatres ou que les psychologues qui sont musiciens dans leur vie personnelle ou artistes, entre guillemets, dans leur vie personnelle. C'est un enjeu, parce que s'intéresser à quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, ça veut dire faire confiance, ça veut dire sortir un peu des idées reçues qu'on a, ça veut dire beaucoup de choses. Et ça, je ne sais pas si... voilà, dans un milieu médical qui est très cartésien, on va dire ça comme ça, c'est notre devoir, je pense, d'apporter des preuves, quoi, d'efficacité, de montrer qu'il y a des choses, qu'il y a des chercheurs qui ont travaillé à l'international. Alors, il y a des domaines beaucoup plus développés que d'autres, forcément. Je pense à un domaine de l'autisme, de l'algologie, tout ce qui est maladie d'Alzheimer, par exemple. Il y a beaucoup, beaucoup de littérature, de plus en plus, en tout cas, sur ce sujet. Et c'était aussi l'idée de montrer qu'il y a une littérature spécifique à la musicothérapie, et pas forcément une autre qui est parallèle, qui est très très intéressante, mais qui ne montre pas forcément les effets de la musicothérapie. C'est tout le domaine, on va dire, pour le dire très rapidement, des neurosciences cognitives, par exemple. Eux, par exemple, vont montrer les effets de la musique sur le cerveau. C'est super, et c'est très intéressant. Parfois, les musicothérapeutes s'appuient sur cette littérature pour justifier leur intervention. Pour autant, en fait, là où ça, c'est pas très correct, c'est que en fait, ça ne montre pas les effets de la séance en tant que telle. En fait, ça montre que, ben, bien sûr, que la musique elle a un effet sur le cerveau, tant mieux. Mais par contre, ce qu'on peut y faire avec un patient dans un contexte très fermé, qui peut être une salle ou avec un instrument sur plusieurs séances, tout ce contexte-là qui fait la prise en charge finalement, ça, ben, je pense que c'est important d'apporter à la connaissance aussi de ces personnes.
On va retrouver la fin de l'entretien avec Stéphane et nous l'enchaînerons directement avec un extrait de son podcast. Ce qui nous emmènera à la toute fin de l'émission où on se retrouvera pour une dernière fois afin de se dire au revoir. Retour à l'entretien.
Voilà, donc c'est un podcast de diffusion et de vulgarisation scientifique. Et comme je m'oriente aussi avec ma thèse dans quelque chose de l'ordre aussi de la recherche, peut-être de l'enseignement, j'espère. Et donc c'est aussi l'idée de partager. Je ne suis pas encore assez âgé pour parler de transmission. Donc partageons, on est là, c'est déjà pas mal. Mmh. Et apportons surtout les connaissances qui existent. Mais voilà, l'idée, c'est vulgarisation, mais dans le noble sens du terme. Donc j'espère que ça peut parler aussi aux des gens qui s'y intéressent, mais qui ne connaissent pas. Peut-être, et surtout aux usagers. J'aimerais beaucoup faire une rubrique que j'ai appelée... une parole, on va dire, de patient expert. Alors, j'aime pas trop ces termes parce que je crois qu'ils sont un peu protégés, bon bref, mais en tout cas de personnes qui ont vécu l'expérience de la musicothérapie, qui vont mieux aujourd'hui et qui peuvent du coup en témoigner. Ça, je pense que j'ai quelques personnes en tête déjà que je connais, mais l'idée après ça serait d'enrichir, pourquoi pas faire un appel aussi à des gens qui voudraient témoigner. Mais ça serait, voilà, c'est pas à la marge, parce que j'ai peur aussi de basculer dans le champ de la magie si on fait aussi parler que ce qui fonctionne. C'est très bien d'avoir dit ça, parce qu'effectivement, il faut être mesuré, en fait, je pense, quand on parle. J'essaye, mais c'est difficile. Hein, et c'est vrai que parfois, ça marche pas. Et si ça marche pas, il faudrait savoir pourquoi. Il faut se questionner plus sur des choses comme ça. Et il y a une histoire de temporalité, une histoire d'évaluation, une histoire de méthodologie, de recherche. Et ça, c'est des choses que j'aimerais aussi expliquer dans ce podcast. Bref, il y a un tas de choses qui seraient très longues à débattre, mais qui seraient intéressantes.
Alors tout d'abord, de combien de professionnels nous parlons ? En 2017, il y avait 7000 musicothérapeutes aux États-Unis et 6000 en Europe. La FFM comptabilisait près de 300 adhérents en 2021 quand l'Association française de musicothérapie, la FM, et la Société française de musicothérapie, la SFM, ne comptent respectivement qu'une trentaine de membres. Toutefois, en nous baladant sur un réseau social professionnel bien connu, nous savons que nous sommes bien plus nombreux. Tout ceci montre la vision de ces thérapies, qu'on oppose encore trop souvent à la seule action pharmacologique ou psychopharmacologique d'une molécule. Rassurons-nous, nous sommes parfaitement conscients que la comparaison ne se tient absolument pas. Une note reste une note, même si elle peut avoir des effets secondaires positifs comme négatifs. Je vous invite d'ailleurs à lire à ce sujet le papier de 2018 de Cherry Hens et de ses collègues qui évoque les différentes utilisations « saines » entre guillemets ou « malsaines » entre guillemets de l'écoute musicale et la mise en échec probable de l'autorégulation émotionnelle. La musique peut aussi intensifier les humeurs négatives et dépressives, favoriser les pensées négatives par rumination, ou encore rappeler et faire revivre des souvenirs traumatiques. La musique seule peut aider, mais la force de la musicothérapie réside dans la relation thérapeutique par la musique. Aussi, l'émergence de différents logiciels, applications beaucoup plus professionnelles en lien avec ce type de musicothérapie vient complexifier, malgré eux, la présence et la nécessité même de la personne du musicothérapeute. Or, nous pensons, très naïvement en tout cas, qu'il existe une nécessaire plus-value à la présence humaine du musicothérapeute, et pas nécessairement de notre soignant d'ailleurs, pendant toute la durée de la relaxation, pour des raisons évidemment de contenance, de recueil de verbalisation, mais également de possibles ajustements musicaux notamment. Le jeu live souligne encore plus cette pertinence. Son ouvrage, La musicothérapie interactive, Amelia Oldfield, qui a une grande pratique de la musicothérapie, notamment mais pas que avec des enfants autistes, conseille également d'utiliser son premier instrument, mais ne prête pas sa clarinette, qui est son premier instrument, ce qui peut évidemment s'entendre. Il est naturellement plus facile de faire un quatre mains quand on est pianiste, ou un je ne sais pas trop comment on va pouvoir l'appeler, mais un quatre bras, quatre jambes quand on est batteur, plutôt qu'un deux bouches quand on est soufflant. Quoi qu'il en soit, Amelia Oldfield a chiffré quantitativement l'utilisation de son instrumentarium, et il est intéressant d'observer que dans le cadre d'une de ses prises en charge, active dans 88% du temps, elle n'utilise que 7,7% sa clarinette, elle utilise 24% le piano, 22,4% d'autres instruments et 57% des vocalisations. Alors je ne sais pas si cela est réellement représentatif de l'ensemble de nos pratiques, en tout cas ça a le mérite de nous éclairer un petit peu. Il peut aussi venir cette autre question, peut-on être musicothérapeute sans être musicien ? Je pense que c'est très difficile de se lancer sans connaître la musique à minima, ni avoir certains automatismes de musicien pour se libérer justement de cette technique et rester dans la relation thérapeutique. Au-delà de quoi ? Le risque majeur est de rester dans ce qu'on va appeler très trivialement le côté occupationnel, qui, s'il peut être intéressant, peut être mené par n'importe qui que par des musicothérapeutes. On peut également préciser que, sans culture musicale, il reste aussi très difficile de faire des séances. Dans sa présentation du bilan psychomusical, au-delà du questionnement que je soulevais tout à l'heure sur la prédominance de la musique savante, ce livre, mais également les différents ouvrages et globalement en fait tous les travaux et les articles de Verdopayès restent aussi le témoin de son incroyable culture musicale et artistique. Cette culture musicale est le terreau de l'inspiration et de la créativité, et nos séances réclament ces deux compétences. Cet élément central de la technicité musicale rend également la recherche clinique difficile à réaliser et la réplicabilité des données difficile, parce que d'une part la technicité sera différente, mais également que nous n'avons pas tous le même instrumentarium à disposition, ni la même appétence avec tel ou tel instrument. En attendant, n'oublions pas que de la magie à la science, il n'y a qu'un pas.
Voilà, cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir écoutée. Pour vous immerger dans les voyages de Kali, rendez-vous sur sa page YouTube Kali Travels. Et pour découvrir les podcasts de Stéphane, rendez-vous sur sa page, attention, c'est un peu long, www.prodige-culture.fr/podcast Stéphane Scotto avec deux T dit Rinaldi. En tapant son nom, vous pouvez aussi le retrouver directement sur Spotify. Nous ne manquerons pas de proposer les liens lors de nos publications sur les réseaux. L'Imaginoire est une émission co-construite avec des personnes touchées par la déficience visuelle. Vous voulez participer ? Contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org ou retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube. L'Imaginoire est une émission produite par l'association Résonance et soutenue par la CAF Drôme. À bientôt pour une nouvelle émission.